Et moi.
Et vous.
Une série d'émissions présentées par Olivier Bas, réalisée par Philippe Labrousse, coproduite par les radios francophones publiques, consacrée à Jacques Dutronc.
Dutronc. Attends, tu veux dire le bout du tronc? Non.
Cigare.
D'abord, c'était un des plus beaux garçons que j'ai vus, parce que je me suis dit, mon Dieu, quelle est la beauté de ce mec. Mais je trouve toujours que c'est un des plus beaux hommes qui soit. Il y a des gens comme ça, ils ont la vraie beauté, quoi. Il y a Bowie aussi. Et Jacques, il est magnifique, quoi. Il a la vraie beauté, quoi. C'est-à-dire la beauté à la fois de il est beau à regarder et en même temps ce qu'il dégage.
Méfiez-vous, c'est un truand.
Dutronc, sixième. L'acteur.
Et je l'ai vu jouer magnifiquement, quoi, avec cette intériorité qu'il a, qui est inouïe. On le voit quand on est en train de tourner en face de lui.
Michel Blanc.
On voit que la moitié de ce qu'il fait. Et c'est quand au rush, quand on regarde, là on voit l'âme.
Hein. Là c'est plus le réalisateur qui parle alors.
Oui, mais c'est aussi le collègue de bureau, hein, parce que j'étais chambre à part, j'étais spectateur de ce qu'il faisait, parce que j'ai joué en face de lui. Donc, moi, j'allais au rush parce que j'aime bien vérifier ce que je fais en tant qu'acteur. Et d'un seul coup, je voyais les rushs et je me disais, mais voilà, c'est ça. C'est vrai que le cinéma, c'est quelque chose d'assez, assez magique. On ne sait pas pourquoi certaines personnes ont de la présence, d'autres pas. Moi, je crois que oui, derrière, on voit l'âme. Une fois projeté, alors que quand on est en face en train de jouer, on voit le travail de l'acteur, on se dit il est vachement bien, puis d'un seul coup on se dit non, il est plus que vachement bien, il y a un truc que j'avais pas vu, que j'avais pas senti. Ça c'est assez magique chez lui, et il a ça vraiment. Et après je l'ai revérifié évidemment constamment dans Embrassé.
J'adore Gentleman Cambrioleur.
Sandrine Bonnaire.
Alors cette chanson je l'adore parce qu'elle me rappelle mon CM2, et on apprenait cette chanson, et c'est drôle d'ailleurs de faire la boucle comme ça, de connaître cette chanson gamine, et de m'être retrouvée à travailler avec lui, et qui me considère comme sa famille. Enfin, il y a quelque chose de très émouvant là-dedans.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter. Il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Gagner le cœur.
trouve formidable. Bon, mais c'est très facile de dire ça. Je trouve formidable.
Eddie Mitchell sur France Inter.
Parfois totalement, totalement incompris. Je vois très bien moi ce qu'il veut donner, et c'est pas forcément compris avant. Je parle pas même pas du public. C'est même pas compris du metteur en scène, je crois surtout. Et il y a qu'un moment où il a été totalement compris. Pas un metteur en scène, moi, qui m'a toujours, par contre, fait chier, qui m'a fait peur, aussi, il faut bien le dire, qui n'était pas sans talent, qui était Piala. Et je trouve que le Van Gogh de Jacques est bouleversant, mais vraiment bouleversant. Et je le trouve extraordinaire, rien que pour ça, je veux dire, rien que pour cela, on peut pas émettre un doute sur les talents d'acteur de Jacques. C'est impossible.
C'est un acteur superbe, Jacques. C'est un acteur vrai. C'est un acteur. Il joue comme il est, lui, d'ailleurs, dans la vie.
Johnny Hallyday.
Il ne se force pas. Moi, je l'ai vu la dernière fois au César. Il m'a fait rire quand même, parce que c'est quand même un des rares acteurs qui ose quand même dire ce qu'il pense. Ce qu'il pense tout bas, il le dit tout. Bon, c'est le seul d'ailleurs. Ça m'a quand même fait bien rire. C'est toujours sur la dérision. Il a une espèce de dérision comme ça qu'il dit à haute voix. Et ça passe. C'est comme Coluche quand il venait sur scène en disant « Vous êtes tous des enculés ». Tout le monde riait. Moi, si je vais sur scène et que je dis au public « Vous êtes tous des enculés », personne ne rit. Hein.
Bon, soyons précis. Quel est le vrai début ?
C'est dans Dim Dam Dom. Donc, c'était la télévision. J'avais joué là-dedans. Il y avait Françoise d'Orléac. Un facteur loup-garou, c'est-à-dire que vers minuit, sa mobilette devenait poilue, le courrier aussi, c'était les lettres, les paquets devenaient poilus, etc. Enfin, c'était marrant, c'était pour... c'était des émissions très très bien faites, d'ailleurs, Dim Dam Dom. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, un canal comme Jimmy ou je ne sais pas quoi repasse pas ça, parce que c'était bien. Dont un qui était parfait, ou je ne sais pas si Gainsbourg faisait le petit Jésus, je ne sais pas. Moi, je sais que je faisais je ne sais pas quoi, et j'avais un petit Monkey. C'était un tout petit Honda à 4 temps, mais minuscule. Génial. Et je tournais dans la crèche, comme ça, il y avait une crèche avec je sais qui. Enfin bon. Enfin, je ne faisais pas l'âne, c'est dommage. Et le bœuf non plus, bien que je sois taureau, mais bon, si on peut appeler ça tournée. Mais enfin, c'était autre chose que de chanter en playback ou en direct devant des âges tendres et des têtes de bois, quoi, et, avant de faire tilt. Sinon, si on parle de rôle, enfin, c'est beaucoup dire comme truc, mais genre cinéma, mais c'était en studio, ce que je n'aime pas beaucoup. C'était Le Massy, effectivement, tourné par... Jean-Marie Perrier, et j'avais comme. Enfin, j'avais. C'était surtout écrit pour Piéplu, quoi, qui est le grandissime Claude Piéplu. Il était tellement grand pour moi que j'ai jamais osé lui dire que j'admirais, mais j'ai mis très longtemps à pouvoir approcher tous ces gens-là et leur dire combien je. On en parlera plus tard. Mmh. C'est au cours d'un film que j'ai tout. Sinon, on devait me prendre pour un mec qui s'en foutait, je sais pas, alors que j'étais trop en admiration pour leur dire. Enfin, je sais pas, j'étais trop en retrait, bon. Donc Piéplu, effectivement, il faisait Le Massy face à la mer. La mer était genre Fellini, puisque c'était en studio. C'était un drap bleu tiré par quatre cons qui faisait secouer. Il y avait des bruits de mouettes. Et moi, je faisais un plagiste, je crois. Ouais. Ça, c'est le premier truc que j'ai fait. D'ailleurs, je n'ai jamais revu, c'est dommage. Ça, c'est le premier truc vraiment avec un bruit de caméra de cinoche, quoi. Ça devait être la Reflex, là, ou je ne sais pas quoi.
C'est mon fils, Jean-Marie Perrier, qui m'a... amené un jour à la tête de l'art, dont il sera décidément beaucoup question dans cette émission. Et je l'ai vu, pour la première fois sur la scène. Jean-Marie m'avait prévenu, il m'avait dit, tu sais, il va te dérouter. Il chante des très belles chansons, j'avais entendu beaucoup de ses chansons, que j'aimais beaucoup, mais il m'avait dit, il va te dérouter parce qu'il chante une chanson, il a un très gros succès, la salle est chaude, et puis il brise. De lui-même, il brise le rythme de son tour de chant, c'est-à-dire qu'il casse. Alors, comme je t'ai vu toute ta vie faire le contraire dans tes rôles, c'est-à-dire essayer de ne pas briser, évidemment, tu vas être un peu surpris. Mais c'est un garçon comme ça. Et effectivement, j'étais un peu surpris. Il faisait, il ne m'en voudra pas de le dire, des plaisanteries d'une qualité discutable, après avoir chanté des chansons merveilleuses. et avoir vraiment pris la salle en main. Et puis brusquement, il faisait l'idiotie, enfin, la chose qui vraiment faisait tomber absolument l'ambiance. Puis il repartait, il remontait. Et Jean-Marie m'a expliqué que c'était son caractère, que c'était ça. Et puis il m'a expliqué qu'on allait faire un film ensemble, que nous avons tourné, qui s'appelait Antoine et Sébastien, qui est le premier rôle à l'écran de Jacques Dutronc, qui maintenant est en train de devenir une énorme vedette. Je crois que c'est tout à fait mérité. Mais en fait, dès ce premier film, on a décelé sa personnalité, qui, je crois, est celle d'un timide. Moi, je suis convaincu qu'il est timide, et c'est probablement pour ça que c'est un très grand acteur. Parce que, à la base de toutes les carrières de comédiens, il y a une timidité. Les comédiens veulent échapper à leur propre personnalité et se cacher derrière des personnages. En fin de compte, c'est ça l'idéal. Et Dutronc, par exemple, s'est caché tout à l'heure derrière le personnage du monsieur qu'on interview et que ça ennuie. Et bien ça, c'est déjà être un très bon comédien.
C'est très beau, hein ?
Hein, c'est beau, hein ?
Sauf que je réponds quand même sincèrement, là.
Et quand François Perrier, donc là, vous venez de tourner Antoine et Sébastien, dit vous êtes un grand acteur, ça vous gêne, ça vous rassure, ça vous met en confiance
C'est très gênant de sa part, parce qu'il en a côtoyé des tellement grands. C'est pas gênant d'entendre ça. Ceci dit, là, il a écrit un livre qui s'appelle « Professeur menteur ». Alors, méfiez-vous aussi de ce qu'il dit. Non, mais je crois qu'il faut être sincère, pas trop le montrer, mais faut l'être. Et disons, pour comme image, il faut, lorsque l'on sait un texte, il faut déjà apprendre à l'oublier. C'est, voilà, et après, je ne détiens pas une formule miracle, mais il faut jouer avec ses propres sentiments.
Françoise Hardy.
Vous avez dû aussi vous en rendre compte que finalement, il est devenu chanteur un peu par hasard, sans vraiment l'avoir décidé lui-même, et acteur pareil, il a fallu que ce soit les autres qui veuillent pour lui.
Alors avant Jean-Marie Perrier, puisque c'était le premier film, on connaît l'histoire où il vous a coursé pendant des mois et des mois, j'ai lu quelque part, et je voudrais voir à la source, François Truffaut aussi, vous avez fait du pied avant.
Oui, j'ai même déjeuné chez lui, c'était par l'intermédiaire de Dany, mais... Dany m'a dit, il veut absolument te rencontrer, faut que vous tourniez ensemble, ça serait génial. Je l'ai vu et c'était fort sympathique, sauf que la table devait faire 10 mètres et chacun un bout. Mais j'étais très impressionné de ce monsieur. Mais en plus, il a eu l'honnêteté de dire, faut qu'on tourne, mais je n'ai rien en tête pour vous, quoi. Je ne vais pas tourner pour tourner avec vous parce que vous êtes un tel. Donc il n'avait pas de scénario vraiment. Mais sinon il était question que... Mais il y en a d'autres aussi, je ne me rappelle plus. Je sais qu'à un moment Joseph Losey aussi, c'est bien plus tard hein, ça. Bien plus tard aussi, sa femme était venue me voir en disant il ne parle pas bien le français. Je lui dis il parle sûrement mieux le français que moi l'anglais. Il me dit il aimerait bien vous voir. Mais enfin ça c'est bien plus tard ça.
Alors c'est un début, Jacques Dutronc.
Bah oui, c'est un début aussi. On peut.
Ce n'est qu'un commencement.
France Inter.
Oui, je préfère le mot commencement, oui, parce que c'est plus.
Vous allez abandonner la chanson ?
Abandonner, non. Pourquoi ?
Non. Pour vous consacrer à une très brillante carrière cinématographique.
Non, il faut faire les deux choses, je pense.
La musique que nous venons d'entendre, signée Jacques Dutronc, traduit assez bien l'atmosphère du film.
Ah oui, ça merveilleux. Ouais. Remarquablement.
Une espèce de côté un peu langoureux, comme
oui,
ça.
D'ailleurs, ce qui est assez étonnant et ce qui est assez surprenant, vous disiez que c'était un commencement pour Jacques Dutronc. À mon avis, ce sont des débuts tout à fait exceptionnels. Il est très rare de voir quelqu'un qui, après tout, ne connaissait pas le cinéma débuter aussi brillamment. Mais je dois dire que ce qui m'a le plus surpris, je le connaissais au Music Hall, comme tout le monde, je l'avais vu à la télévision, et je savais qu'il serait très drôle et très amusant, mais je ne savais pas qu'il serait émouvant. Et ça, c'est très extraordinaire.
Il n'aime pas qu'on en parle ?
Non, parce qu'il a une très grande pudeur.
Eh oui. Alors donc oui, mais c'était difficile pour moi de répondre à l'époque, puisque effectivement, vous voyez bien le genre de questions. Maintenant, ça n'existerait plus. Ça. Il y avait une émission qui s'appelait faite par Drucker, d'ailleurs, qui s'appelait je sais pas quoi le dimanche après-midi, où vraiment la chansonnette est séparée du cinéma. Le cinéma, c'était quand même, il y avait, on sentait que c'était beaucoup plus classe, et la chansonnette, ces petits chanteurs, d'ailleurs, comme ça, bon. C'était deux choses différentes. Lorsque tes chanteurs, à part des exceptions comme Montand ou Aznavour, ou je sais pas, ou Mouloudji, ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire les deux quand même.
Reggiani hein.
Oui, Reggiani plus tard, ouais, bien sûr. Ouais. C'est un peu plus tard, Reggiani, je crois, la chansonnette. Par rapport à l'époque dont je parle là. Oui, non, mais bien sûr qu'il en fait partie, mais c'est plus tard. Là, je te parle d'un truc où c'était vraiment très séparé. Moi, mon rêve, c'était d'être dans le début de l'émission où on parlait que de cinéma. Ça m'est arrivé. Alors, je narguais un peu les chanteurs, dans le genre, t'as pris ton playback, minable.
Il y a trois personnages publics, l'acteur, le chanteur et le compositeur. Vous auriez une préférence sur l'un des trois ?
Thomas Dutronc.
Ce qui est sûr, c'est que c'est dans la musique que je le préfère. Compositeur ou interprète maintenant. En tout cas musicien, c'est ce que je. Ouais.
Encore.
Bon, donc soyons bien clairs. Oui. À aucun moment vous avez voulu choisir musique ou cinéma.
Mais c'est pas. D'abord, il y a de la musique dans le cinéma et. Dans la musique, il y en a beaucoup qui font du cinéma. Enfin, par rapport à ce qu'ils font, quoi. Ils en rajoutent énormément autour d'une chansonnette, quoi. Alors que c'est pas la peine. Je crois pas, mais... Non, mais tout est compatible. Il n'y a pas, y a aucune raison. Ben, n'importe qui chante, n'importe qui tourne, maintenant. Tout le monde. Il y a plein de gens, je sais pas qui c'est, je sais pas. Ils font un coup, quoi, et puis après on les revoit pas, ou après on les retrouve en tant que scénariste, ils ressurgissent. Il y a des petites mafias un peu partout, là, c'est bizarre. Ouais.
Quelle est la place pour vous de la musique dans un film ? Vous l'avez fait beaucoup, au début, vous composiez pratiquement toutes les musiques de films.
Oui.
C'est un acteur complémentaire, la musique ? Quel rôle ça a ?
Ah non, c'est plus qu'un décor. La musique, c'est plus qu'un décor, mais alors c'est toujours mal situé puisqu'on parle du pont de la rivière Kouai ou le troisième homme comme musique de film. On parle tout le temps de ça. Bon, c'est vrai que ça.
Docteur Jivago aussi.
Oui, enfin moi parce que ça, merde, je siffle. Et le troisième homme, bon, ça tout, mais il n'y a pas que ça, quoi. Ça, ce sont les musiques qui sont restées parce que bon, il y a Zorbeck le Gras aussi. Ça, c'est. La musique, ça doit pas empiéter sur trop souligner, c'est trop, mais ça doit aider un peu, ça doit pousser un peu l'acteur, ou je sais pas, ou l'acteur doit laisser place à la musique d'un seul coup, quoi. Bon, c'est vrai que si j'embrasse un arbre en pleurant, comme ça, filmé comme ça, on dit que c'est que ça, c'est comme si enlever une phrase de tout un texte. J'embrasse cet arbre en chialant. Bon, on remet un tapis de cordes énorme qui pousse. On se dit tiens, et on met deux images avant. Une femme me dit t'as qu'à te pendre, tue-toi ou je sais pas quoi. Là, ça marche de suite. Les violons poussent aussi, mais ça amène un peu plus, quoi. C'est pour le confort du spectateur aussi. Par moments, ça l'empêche de trop sortir de sentiments. Ils sont là déjà, mais il faut leur laisser de la place. En fait, il faut tout le temps qu'il y ait des sentiments, que ce soit le rire ou les pleurs ou l'émotion. Elle doit être là tout le temps, quoi. Et la musique doit servir aussi à ça, mais pas uniquement ça. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la musique au mètre comme certains font. C'est-à-dire que je vous en mets combien ? 3-4 mètres là, 2 mètres ici. C'est un petit apport, c'est une déco, la déco par moment. Ou alors ça devient un personnage très important, si elle est très impliquée, ou alors elle souligne un personnage par moment. On entend la musique avant qu'il arrive. Quoique la plus belle entrée au cinéma, c'est quand même Omar Sharif. Laurence d'Arabie. La plus belle entrée au cinéma, c'est là quand même. David Lean lui a fait ça quand même. Je pense que ça dure 2 à 3 minutes son entrée, avec le chameau au loin. C'est quand même là, incroyable, ouais. C'est quand même c'est la plus belle entrée quand même. Dans, là, alors, c'était, non, mais il n'y a pas besoin de faire le conservatoire, c'était une star de suite.
Et vous, c'était un exercice de style que vous aimez bien, faire une musique de film, c'était...
Ben non, non, pas vraiment. Enfin, on me l'a demandé, donc je l'ai fait. Certaines personnes vous précisent bien ce qu'ils veulent. Dans ces cas-là, ça me paraît plus clair, mais... La première musique que j'ai faite... Non, mais j'en ai fait avant... Non, après. Non, avant,
je... Il y a Juliette, quelque chose, non?
Il y a... je sais plus. Enfin bon, peu importe, on retrouvera le nom. Déjà, moi, je sais plus, même plus comment je me rappelle, moi. Alors... Il y avait, oui, voilà, le film s'appelait Pierre et Paul. J'avais fait la musique aussi de ça, mais je faisais pas de cinéma, hein, par contre. Après, j'en ai fait une autre aussi pour je sais pas quoi, je sais plus. Mais merde, comment il s'appelle ? Ça veut dire que j'aime bien les gens, ils sont dans une case à part et que c'est secret.
Et par exemple, dans ce merveilleux film, C'est la vie, c'est là où vous reprenez donc pour la première fois Un jour tu verras.
Non, c'est pas la première fois. Non.
Parce que, enfin, vous ne l'aviez pas enregistré, alors.
Si.
Madame l'Existence était déjà sortie?
Non.
Non.
C'était l'époque où, bien avant tout le monde, je voulais faire des... Maintenant, on appelle ça des reprises, tout ça, puisque... Il y avait dedans cette chanson-là. D'ailleurs, ça a été filmé par Jean-Marie, dans l'espèce de truc là, du casino de Paris.
Salut sexe.
Ouais, salut ouais. Sexe. C'est dedans, tu as qu'à voir, j'enregistre avec les cordes, hors direct. Un jour, tu verras. Ça date de là, et c'est comme ça que Améris... L'a entendu, parce que ça devait être, il devait y avoir cette chanson-là, une autre, des trucs comme ça. Quelques reprises, et puis des titres peut-être de jazz avec Mon regret que tu sais pour Tony Bennett.
D'accord.
Mais il devait y avoir ça aussi. Ça, c'était important. Et donc, Améris l'a entendu, parce que je ne sais pas pourquoi, je devais faire des tris, faire je ne sais pas quoi. Et donc, il l'a entendu, il m'a dit, là, alors, il faut que ce soit dans le film.
N'importe où, guidé par le hasard.
je trouve que Jacques est plus un grand acteur qu'un grand chanteur.
Sandrine Bonner.
Ce qui est intéressant chez Jacques dans la chanson, ce sont une certaine attitude et un certain pied de nez qu'il a dans ses textes et dans sa manière de encore une fois, cette nonchalance et ce côté de... Oui, je trouve plus sur les textes, plus sur ce que ça raconte que sur le talent d'une voix qui serait... Je trouve pas qu'il ait une voix incroyable. Excuse-moi, Jacques, mais... Voilà, donc c'est plus pour moi un chanteur à texte, à caractère dans ce que ça raconte, dans une interprétation, je dirais, plus de l'ordre de la comédie que de la chanson.
Mon manège à moi, c'est toi.
C'est toujours tu... la fête.
Quand tu me prends dans tes bras, je ferai le tour du monde.
Ça ne tournerait pas plus que ça.
La terre n'est pas assez ronde
pour m'étourdir autant que toi. Comme on est bien tous les deux, quand on est ensemble nous deux, quelle vie on a tous les deux, quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète, tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête, et la dernière est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la peur. Ma parole, y a qu'elle pour faire tant de mystères. Mais pour nous, y a pas de problème.
Mon avis, qu'on s'aime.
Et s'il y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même.
Tu me fais tourner la tête.
Mon manège à moi, c'est toi.
Je suis toujours à la fête.
Quand tu me prends dans tes bras,
je ferai le tour du monde.
Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde.
Pour m'étourdir autant que toi. Tu me fais tourner la tête, tu vois. C'est bien.
C'est marrant, mais moi j'étais censée détester le karaoké et lui adore, il est censé adorer. Alors on s'est retrouvé à jouer cette scène, moi je connaissais par cœur les paroles de cette chanson, lui il connaissait rien. En plus il y avait un problème technique, c'est-à-dire que la musique et les paroles, il y avait un contre-rythme. Et voilà, donc du coup c'est moi qui l'entraînais, j'avais l'impression de l'entraîner puisqu'il connaissait pas les paroles, en plus il voyait rien. Mais j'avoue que j'ai pensé à ça, je me suis dit, je suis quand même en train de me faire un petit duo avec Jacques Dutronc.
Il y a quand même Eddy Mitchell qui m'a dit hors micro que C'est la vie, c'était le plus beau rôle pour un acteur, parce que d'être couché pendant tout le temps du film, est-ce que mon lit est bien fait et tout, donc
oui, mais voilà, ça, attends,
je vous transmets le message. Hein.
Non mais oui, ça je sais, mais je l'ai dit avant lui, attends, oh là là. Bah, j'ai dit que c'était un rôle de décomposition, déjà, et ensuite... Lorsque j'ai eu ça ici, j'ai reçu ça en Corse, on m'a dit par téléphone, on m'a dit on t'envoie scénario, tu verras c'est sinistre, enfin c'est pas très... Alors je dis c'est-à-dire quoi, sinistre, qu'est-ce qui se passe? Ben, il m'a dit t'es en fin de vie, t'es pratiquement dans le coma, couché, ben, j'ai dit attends c'est le rêve, couché, pas un mot, pas de texte, mais malheureusement j'avais oublié qu'il y avait des flashbacks où je sais pas, où j'étais survivant encore un peu, ben, j'avais oublié ça même. Mais il y avait un autre plaisir, c'est que c'était Marseille et tout à la côte. Enfin bon, c'est-à-dire que tout le dramatique de ce film a été complètement... Maïd s'était balayé tous les soirs par mon entourage et par le fait de redescendre sur Cannes tous les soirs. Je sais pas, c'était un truc... c'était magique, ce film. Ouais. Vraiment. Et puis la rencontre avec la radieuse, là, c'était bien.
France Inter.
Et alors, la voilà.
C'est là où on se rejoint et c'est là où c'est un merveilleux acteur. Moi, je pense que les grands acteurs... Enfin, en tout cas, moi, les acteurs que j'aime, ce sont ceux qui... Bah, qui ont de la distance, quoi, qui arrivent à se mettre dans la peau du personnage et qui en sortent très vite. Mmh. Et c'est vrai que je me souviens la scène de coma, enfin la toute fin, quand, enfin la scène de sa mort. Donc il avait quand même joué ce truc assez éprouvant, assez intense. Et puis ensuite il y avait un gros plan, enfin un contre-champ sur moi. Il était derrière, on voyait son corps, donc il était censé être mort. Et donc on ne voyait pas vraiment Jacques, mais enfin on le sentait quand même derrière. Et moi j'étais devant, je devais, je ne sais plus, pleurer, enfin être très triste, quoi. Et Jacques, il était avec une coupe de champagne, avec son cigare, et il avait accroché un truc à son pied, une connerie, enfin genre ça y est, je suis partie à la morgue. Il était à l'horizontale, quoi, couché avec sa coupe de champ et... Et le type qui se la joue en pleine santé, plutôt. Donc voilà, donc c'était assez rigolo. Donc il y avait plein de choses comme ça, quoi.
Il ne faudrait pas que... C'est très, très gentil, tout ce qu'elle dit, Sandrine, mais il ne faudrait pas que les gens interprètent comme quoi je voulais la distraire, ou, parce qu'il y a un tas de cons qui arrivent puisqu'elle parlait de chant contre-chant, en contre-chant, d'être, en principe, derrière la caméra, ils font des grimaces terribles, parce qu'eux, ils savent que c'est dans la boîte et ils emmerdent totalement l'autre. Il y en a même des extrêmement forts, ils sont derrière la caméra et ils arrivent en contre-champ à être quand même sur... Ils arrivent à être là, on les voit quand même. C'est quand même des maîtres du cabotage. Je sais pas, moi, je trouve que moins on vous voit, mieux c'est. Enfin, je pense que d'autres pensent l'inverse, mais il vaut mieux pas trop se montrer, non ? Non, mais je veux dire, je ne l'ai pas perturbé. J'ai dû le faire après que moi, jugeant, parce que Améris était gourmand, hein, oui. Comme beaucoup, il ne veut jamais que ça s'arrête, le film. Et c'est pour ça que j'ai écrit sur mon pouce, j'ai fait une étiquette, c'est fini, et j'ai dû laisser 2-3 scènes, ou 4, alors qu'elle était magnifique, de suite, Sandrine, c'est pas la peine de faire chier tout le monde, là, pendant 25 prises, donc j'ai dû faire ça après, donc champagne, cigare et machin, c'est fini. Je suis reparti dans ce qui me servait de loge, une chambre, là, je sais pas quoi. Et là, donc, j'ai dit, c'est terminé. Et là, il y a l'ingénieur du son qui vient, il me fait, excuse-moi Jacques, on a besoin de râle. De râle. Je dis, qu'est râle ? Je dis, je suis mort, c'est fini. C'est écrit, c'est fini. Je ne touche plus à rien, c'est fini, je suis mort. Bah, il m'a dit, je comprends. Mais je lui dis, t'en as de toute façon des râles. Et puis, pourquoi rajouter des choses ? C'est comme rajouter de la musique au cas où il n'en faut pas, quoi. Bon. Je lui dis, mettez un tapis de pluie. Par contre, on n'arrive pas, c'est très rare, à recréer la pluie au cinéma. Mmh. Alors que toi, tes mômes, tu l'entends dans une tente ou sous une véranda, c'est le plus bel corde du monde, ça. Bon. Et donc, je lui dis, non, c'est fermé. Arrive Jean-Pierre Améris, dans le genre Jacques, il faudra absolument faire des râles. Je lui dis, écoute, tiens, voilà, il a eu son champagne. J'ai dit, le râle, c'est fini. Il m'a dit, bon, bah, alors on fera comme ça. Mais je lui dis, arrêtez. C'est pas la peine d'en rajouter.
C'est quelqu'un, Jacques, qui...
Michel Blanc.
...est certainement difficile à mettre en confiance. Mais si, la chose qui me terrifierait, ce serait de le décevoir. Moi, c'est un truc qui m'a... Ça m'a poursuivi pendant tout le film. Je me suis dit... Ce qui serait terrible, c'est qu'à l'arrivée, il soit déçu par le film, et par, donc, par lui dans le film, par moi, voilà. Mais si on n'a pas ça, on a quelqu'un qui dit oui tout de suite. Je lui disais, Jacques, je me demande si on ne pourrait pas essayer de faire... Oui c'est merveilleux. Quand je lui ai envoyé le scénario, il m'a dit, j'ai pas le temps de le lire, je suis sur un film qui était très difficile, un film où il jouait un malade en fin de vie avec Sandrine Donner. Il me dit, c'est vraiment, je t'assure, ce que je joue là, c'est un peu lourd. Il me dit, je vais pas pouvoir lire tout de suite ta comédie, mais a priori, c'est oui. Et ça, c'est magnifique. Il y a deux personnes qui m'ont dit ça. C'est Carole Bouquet et lui. Et bon, bah oui, là, on est à la fois, je lui ai dit tout de suite, oui, mais moi, c'est pas a priori, c'est a posteriori que je veux que tu me dises oui, parce que ça me touche beaucoup, mais je voudrais qu'en plus, ça te plaise. Parce que sinon. Mais voilà, voilà, il est comme ça.
Vous avez su si ça lui a plu?
J'ai su que la manière de tourner lui avait plu. Parce que il m'a envoyé, ça c'est aussi la délicatesse de Jacques et la pudeur de Jacques. Au bout de la première journée de tournage, j'étais au bar, lui était dans sa chambre parce que j'avais terminé plus tard, et il m'a fait descendre un mot. Il voulait le faire mettre dans mon casier, un mot dans lequel je l'ai toujours. Hein, il dit Monsieur Jacques est très content.
Sandrine Bonner passe une petite annonce sur France Inter.
Il y a du regret de ne pas en faire plus ensemble. C'est vrai que alors là, je souhaite vraiment retourner avec lui un jour. Hein. J'ai très envie de. Je lance un appel. voilà, s'il y a un metteur en scène intéressé par Jacques et moi, alors là, je pense que lui aussi, de son côté, il a envie de, qu'on se retrouve. Vous lui poserez la question, mais enfin, il m'a dit ça l'autre jour au téléphone, donc je ne crois pas me tromper. À moins qu'il ait changé d'avis depuis, mais...
Non. Eh bien, ça, je peux lui répondre de suite, puisque je lui ai envoyé un truc. J'ai dit, j'espère que nos travelling vont se recroiser un jour. Ça va, ça?
Bah
c'est
ouais.
Explicite.
Ah ouais, non,
puis mais je pense que j'intéresse beaucoup moins les metteurs en scène qu'elle. D'ailleurs, ils ont raison, je ne suis pas une femme, d'abord, et... Elle est peut-être plus malléable. Non, elle a l'air malléable, mais elle ne l'est pas. Elle a une force terrible.
C'est quelle une actrice,
vraie petite force. Ah, mais comment, quelle actrice? Elle est actrice, point.
Je ne savais rien. Je ne connaissais rien, je prenais la vie comme elle vient. J'ai pris ton amour comme vient le jour, sur un air de slow au balajo. C'était l'avant-guerre, parfum de naguère. En couleur sépia ou noir et blanc, c'était l'insouciance, parfum d'innocence. Il n'y avait ni bon ni méchant. Dis-ce que tu m'aimes, bien sûr que je t'aime, bien sûr. Que je t'aime, quelle question. Sur les photos de ma jeunesse, une étrange tendresse, l'amour en noir et blanc. Aujourd'hui je sais, aujourd'hui j'ai fait tout ce que les hommes peuvent faire. Et l'on m'a trahi, et je t'ai trahi, sur un air de slow au bajo. Car c'était la guerre, parfum de mystère, avec dans la bouche un goût de sang. Puis vient l'après-guerre, aux couleurs amères, c'est fini le temps des innocents. Dis, est-ce que tu m'aimes? Dis, est-ce que je t'aime? Est-ce que nous nous aimons comme avant? Quand nous partions en promenade, j'entends la balade du bon et des méchants.
Et moi, et vous, vous la suite.
Pardon, il y a parfois confusion entre discographie et filmographie. Mais soyez indulgents, c'est vrai que Dutronc a à son actif, mine de rien, 14 albums et 35 films.
Ouh là là, pas facile de choisir, hein.
Comment vous choisissez un film? C'est le réalisateur, c'est les autres acteurs, c'est l'histoire dans son entier, c'est votre rôle seulement, c'est le cachet, c'est...
Voilà, c'est le cachet d'abord. Ah ben, je suis prêt à tout. Si le mec, il y a 40 zéros, pas 40 zéros, hein, 40 zéros, je fais ce qu'il veut. Là.
Enfin, non, je vous crois pas.
Non. Ben non, d'abord, c'est même pas la... Non, mais on a le droit de rigoler, d'ailleurs, ça n'existerait jamais, mais... Mais... Alors c'est difficile parce que non mais c'est lié parce qu'un bon scénar, seul un bon metteur en scène peut le faire, et un bon metteur en scène avec un mauvais scénar, il va sauver les meubles, c'est tout, mais ça n'ira pas plus loin, et donc il n'y a pas de choix à faire, c'est un ensemble. Bon, le pognon, c'est après, ça. S'il y a des entrées, c'est autre chose. S'il n'y a pas d'entrée, il n'y a aucune raison d'avoir de l'argent.
Mais une mauvaise histoire globale avec un rôle extraordinaire pour vous, vous le prendriez ou pas?
Ah ben non, mais ça, c'est ce qu'on dit. Alors, est-ce qu'il faut être bon dans un film mauvais ou être mauvais dans un film bon? C'est un choix, là. Plus ça va, plus je pense qu'il faut tout accepter, ouais, parce que j'ai les chats à nourrir et tout ça. Non, mais sinon, non, je préfère. Mais si je regarde tous les films que j'ai faits, j'ai plus ou moins bien choisi. Hein. Il y a toujours eu un truc qui voulait dire quelque chose, je crois. Hein. Je crois en moi. Je crois.
Alors, par contre, puisqu'on parle de la discographie, le truc qui m'a un peu sidéré, alors qu'on vous connaît, on en a parlé dans une précédente émission sur le côté d'humour, etc. Il n'y a pas.
Il n'y a pas beaucoup de comédie dans
ma vie.
Eh ben c'est le problème. Ça, c'est pas le problème, mais les comédies françaises, à part moi, alors Michel Blanc, je suis désolé de parler de lui puisque il a pas arrêté de parler de moi, mais non, mais on pourrait parler. Peut-être que les gens voudraient qu'on parle de quelqu'un d'autre. Lui, oui, ça va, mais les comédies françaises, c'est pas vraiment mon truc. Bon, là, j'avais fait Pédale dure, qui était en principe une comédie, mais le message n'est pas du tout passé parce que. Ça s'est voulu une comédie, en même temps, le message est quand même assez sérieux. Là, c'est devenu vraiment ce qu'on appelle une comédie dramatique. Là.
Il y a des gens qui le savent, il y a plein de gens qui ne le savent pas. C'est vrai que vous avez dit non à Spielberg, à Spielberg.
Spielberg, Spielberg. Non, je ne sais plus. Non, en tout cas, je ne l'ai pas fait. Mais...
Ouais. Parce qu'il faut expliquer que vous étiez désigné pour être Murdoch. Qui l'a dit que vous étiez certainement le plus grand acteur français, tout ça.
Mais ça, c'est vrai. Mais c'est dans. Enfin, c'est vrai, c'est lui qui. Ça n'engage que lui. Hein. Mais il avait fait tout un papier dans. Comment ça s'appelait? Première, non? Et personne ne le retrouve comme par hasard. C'est bizarre. On dirait qu'il y a des mecs dans le cinéma qui. Ils ne veulent pas qu'il y ait de traces, ouais, comme certains bouquins sur les quais. Bon, peu importe. Mais il avait fait toute une page. Je sais pas, il disait que j'étais le plus grand, je sais pas quoi. Et en plus, on lui avait imposé, enfin, il avait demandé à avoir l'importance et d'aimer. J'imagine le monde de Spielberg avec Zulawski. Enfin bon. Ouais, non, mais c'était pas possible. Et puis, je parle trop mal l'anglais, j'allais pas faire chier pour deux phrases mal dites, toute une machinerie. Mais enfin, on s'est bien marré ensemble, on s'est vu assez souvent. Ouais. Je suis allé le voir à Londres, tout ça. C'est lui qui m'a fait redécouvrir le Macallan comme whisky, je ne connaissais pas. Mais quand même. Eh oui. Ah, là, il y a un alpiniste. L'alpiniste, c'est une bête assez flagrante. Voilà. C'est une bête qui habite en Corse. Et le principe est de grimper, surtout sur les épaules. Ouais.
Et quand vous voyez les aventures de l'Arche finie... De l'Arche perdue, pardon, finie... Il y a un peu de regret ou la vie est faite comme ça, de oui
non,
et de non,
non,
hein.
Non, je suis bien. Certains carriéristes auraient tout fait pour, mais non,
c'est
je
clair.
Pas. Je suis mieux dans mon fauteuil ou dans celui d'une salle pour regarder. Mais c'est mieux, beaucoup mieux.
Mais, Wim Wenders aussi, vous avez fait.
Ah oui, alors là, on était très amis. Mais, puis j'ai plus de nouvelles, ouais, je regrette. Je sais pas. Ouais, on devait faire plein de trucs. Voilà, type chaleureux et bon cinéma quand même. Puis d'un seul coup, je sais pas, les gens l'ont... l'ont un peu ignoré, je sais pas, ou alors ils l'ont trop mis à la mode à un moment, ou je ne sais pas. Il y a eu une cassure il y a quelque temps. Et...
Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait alors, ce film ?
Je ne sais pas, je pense qu'il y a eu une... C'est là où on se connaît bien, où lorsque l'on s'aime bien, il peut y avoir des disputes. Vous savez, ça arrive même par moments par des divorces, lorsqu'on aime bien quelqu'un. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je devais faire le monde entier, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce fameux film. Et à ce moment-là, Piala, comme j'ai dit, je ne pourrais jamais faire le monde entier. C'est pas, enfin, je ne sais pas, je me voyais mal faire tout ça, c'était un peu compliqué. Et Piala est venu à la charge en même temps pour faire Van Gogh. Donc il a dû penser, je pense, que je préférais faire Van Gogh à son film, alors que ce n'est pas du tout ça. Je pouvais faire les deux et j'ai faire le tour du monde, je sais pas quoi, ça me faisait un peu peur. Ouais. Mmh. J'étais pas assez armé pour ça. Ouais.
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout, prout, cadet, à cheval sur mon bide. Fais pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pendant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout, prout, cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler, viens. Donc faire la vaisselle, arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas ci, fais pas ça, à dada, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pendant tu tues. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas ci, fais pas ça, à dada, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne, je ne le dirai pas de voix. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas ci, fais pas ça, à tata pour tout cadet, à cheval sur mon bidet. Vous en faites pas les gars, vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là. Et j'en suis arrivé là, la la la. La la la, la la la. La 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 la.
France Inter.
C'est difficile hein, de trouver une femme, enfin surtout pour moi.
Non, pour tout le monde. Vous êtes sauvage, surtout.
Ah, je suis timide, surtout avec les femmes.
C'est-à-dire ?
Ben, j'ose pas, quoi. Oh. Non, mais je peux aussi être très audacieux.
Ah bon ? Ouais. Vous ne peignez jamais l'eau ?
Ah non, j'aime pas peindre l'eau. C'est trop fluide et le reflet est équivoque.
Je crois que c'est Jacques Villery qui vous a fait rencontrer Maurice Piala.
Alors, voilà. J'habitais donc dans le 14e. Il y avait un... Parce que j'aime bien les hôtels, les grands hôtels. On ne sait pas où on est. C'est, ouais. C'est bien. Bon, le bistrot du coin, c'est bien aussi. Bon. Il n'y a que deux endroits. Hein. J'habitais pas loin de... Ça s'appelait le PLM à l'époque. J'allais là tout le temps. Je filais mes rancards là, parce que j'avais quelqu'un de très sympathique qui pouvait me prêter quelques suites, etc. Puis... C'était à côté, c'était très sympa. C'était truffé de japonais. Villeray, que je voyais assez souvent, donc, et dont Bruno Kremer, d'ailleurs, que je salue avec bassesse extrême.
Grand acteur.
Oh là là. Et non, mais je le vois plus, ça aussi, c'est un regret. Je le vois plus du tout, j'ai plus de nouvelles. Ça. Enfin, bah, si, j'ai des nouvelles par. Je le vois, bon, mais c'est dommage. Bon, peu importe. Je regrette. Quel grand. Ouais. Oh là là. Et feignant en plus. Il a toute mon admiration, parce qu'il doit être feignant. Ah oui, il est tellement bon qu'il doit être feignant.
Dans le bon et les méchants, il est extraordinaire.
Ah
extraordinaire.
Bah, j'ai une phrase pour lui. Regarde ton moteur. On l'a fait chier que ça, parce que sans arrêt, il dit regarde ton moteur. Bon, ça, c'est autre chose.
Oui.
Donc, Villeray savait que j'allais au PLM tout le temps, et il m'a amené Piala un jour au PLM. J'avais d'ailleurs le premier restaurant japonais de Paris. J'avais les clés, tout ça. Bon, et. Il m'amène Piala, et tout ça, ravi. Et à l'époque, Piala m'a dit, je vais vous faire tourner, puisque vous êtes le plus grand acteur français. Les autres, c'est des... Enfin, ça lui a permis de débiter que tous les autres étaient des cons. Enfin, ça a duré des heures entières. Et il voulait que l'on fasse les Lapins de 40. Tous les mecs qui ont fui en 40. Mmh. Enfin, bon, les Lapins de 40, il voulait faire ça. Et bon, on parlait de tout sauf de ça. Après, il venait ici aussi. Villeray venait ici en Corse. Piala aussi, bien sûr.
Piala a gueulé sur vous parce que vous aviez reçu le César du meilleur acteur pour Van Gogh.
Ouais.
Ouais. Ça vous a rendu triste, hein?
Non. Bah, il a dit que j'étais de la merde. J'étais très. Non, mais c'est une manière de vendre des films. Il est allé à Canal en train de dire surtout n'allez pas le voir, c'est très très mauvais. Dutronc est très mauvais.
Et ça vous rend pas triste?
Non. Parce que je connais bien Maurice et ça me rend pas triste. Ça veut dire qu'il m'aime quand il dit ça.
Ok.
Non, mais. Je sais que, hélas, avant sa disparition, Françoise dînait dans un restaurant, il était à une autre table, il est venu à genoux en pleurant et en disant pardon, 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 pardon de quoi Françoise a dû lui dire. Et... Bon, moi j'ai un mot de lui, à la fin du film, il m'a dit que j'étais capable du meilleur comme du pire. On peut pas faire mieux, c'est un mariage là, c'est la vie.
Et la valeur de Vincent vue par Van Dutronc, ça donne quoi?
Je vais mettre les choses au point de suite. Lorsque j'ai fait le film Van Gogh, la plupart des gens étaient là, la peinture, je ne sais pas quoi, parler de trucs. Enfin, mais le dessin, la destinée, cette mort affreuse, tout le truc terrible quoi, de l'artiste qui n'est reconnu, si on peut dire. Enfin, reconnu, surtout acheté. Et racheter plus tard des millions et des millions et des millions par des mecs qui puent le pétrole ou je sais pas quoi. Bon, c'est quand même une destinée un peu incroyable. Mais pendant que tous ces gens pensaient à ça, moi, de suite, quand j'ai entendu Van Gogh, pour moi, un Van Gogh, c'est un paix.
Un Van de Gogh, c'est un paix, ça me paraît.
Parce qu'on dit Van Gogh, Van Gogh, Van de Gogh. Et donc, c'est un paix, qui croit qu'il veut. Bon.
Alors là, on précise, on est début février, donc le 26 février, on va vous remettre un César d'honneur, ça vous fait plaisir?
Écoutez, je vous remercie tous. Qu'est-ce que je vais dire aussi, c'est là? Bah, comme c'est un truc d'honneur, je peux dire que je suis très honoré, comme le faubourg, et pour un mec des faubourgs. Non, non, j'en sais rien, je ne sais pas ce que je vais dire, j'ai rien à dire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vais préparer un discours, mais... Ah bah tiens, c'est eux qui appellent, dans le genre, ça vous plaît pas ou pas? Ça vous plaît ou quoi?
Alors, puisqu'on parle de distinction, je crois que vous avez refusé plusieurs fois la médaille des arts et des lettres.
Ah oui, oula, j'ai été chevalier plein de fois, ou maître, je sais pas quoi. Oui, plein de fois, ouais.
Vous n'avez pas envie?
Non. Enfin, je sais pas, c'est Françoise surtout qui a dit c'est ridicule, et j'ai suivi son conseil. Mais c'était assez politique à un moment. Hein. Donc, je voulais pas... Algérie française, c'est bizarre. J'ai un vieux téléphone, hein. Ah non, mais écoute... C'est bizarre ça, on verra. Donc.
Et la Légion d'honneur
Ah, ça j'aimerais bien la demander, mais. Il faut faire sa demande soi-même, c'est quand même incroyable.
Ça vous ferait plaisir la Légion d'honneur?
Oui, beaucoup.
Puisque vous êtes vraiment très très gentil avec moi, les applaudissements sont parfaits, mais ce qui me manque c'est un triomphe. Vous savez ce que c'est le triomphe? C'est les mêmes applaudissements, mais debout. Merci, merci beaucoup, merci madame.
Et moi, et vous, une émission coproduite par la Radio Suisse Romande, Radio-Canada, la Radio-Télévision Belge Francophone et France Inter. Réalisation Philippe Labrousse, assisté de Godric Gros-Vermeil, mixage Michel Thomas, documentation Janine Marc-Pesé. Merci aux fées clochettes Emma et Sylvie, Olivier Bas.